Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ben, si ce n'est pas le cas ce matin, ma prière sera que l'Éternel vous donne de la joie, la paix, la santé dans les moments difficiles que vous traversez. Je ne connais pas la condition de chacun de vous, mais nous savons une chose, nous pouvons prier pour vous. Nous pouvons souhaiter le meilleur pour vous. Nous pouvons demander à Dieu qu'il change vos vies. Et la mienne aussi. Amen. Et c'est ce que nous demandons à Dieu. Alors, ce matin, je vais commencer le début d'un enseignement, le combat spirituel. Notre thème, résister. Résister. C'est ça que nous allons travailler dessus. Pendant 4 semaines, le combat spirituel sera enseigné. Moi, je ne fais que faire l'introduction ce matin. Et après moi sera suivi, les semaines qui vont suivre, Stéphane Demers et Denis Gué qui vont venir vous équiper avec les armes de Dieu. Comment utiliser ces armes de Dieu-là? Moi, je ne fais que faire l'introduction et mettre la table pour vous amener à comprendre que nous sommes face à une situation de bataille dans la vie, de tous les jours. Mais si je vous demandais ce matin, combien d'entre nous sont conscients qu'il y a un combat spirituel? Combien d'entre vous est conscient de cela depuis que vous êtes chrétien, depuis votre naissance spirituelle jusqu'à aujourd'hui? Combien de fois vous avez participé dans le combat spirituel? Combien de fois vous êtes conscient qu'il y a tellement un combat spirituel que ça fait rage, que vous vous mettez à genoux, que vous gênez, que vous priez pour contrecarrer les forces du diable? Combien de fois vous avez fait ça dans votre vie? Souvent? Tout le temps? Ok. Alors si on le fait souvent, est-ce qu'on le fait seulement quand on a des problèmes ou on le fait quand tout va bien même? Parce que la preuve est que des fois, ce n'est pas pour vous reprocher, mais des fois, dans les cellules de prière, les mercredis, c'est vide. Si vous combattez chez vous, pourquoi on ne vous voit pas dans le combat? Sur le champ de bataille où vous devez être pertinent et être là. Si vous combattez, pourquoi dimanche matin, il y a un groupe de femmes qui prient dans la salle ici. On prie des fois avec eux, quelquefois on arrive, je ne peux pas juger personne, mais c'est pour vous amener à comprendre. Si vous êtes des hommes et des femmes de combat, pourquoi on ne vous voit pas sur le champ de bataille? Pourquoi on ne vous voit pas? Alors, c'est à vous de répondre à ça. Moi, je ne peux pas répondre ça pour vous, mais je peux répondre pour moi. On peut donner plus d'excuses, c'est vrai. D'autres sont fondées, d'autres ne le sont pas. Mais ça, c'est votre responsabilité. Ça ne m'appartient pas, ça. Ce matin, cette image que nous voyons, ou ces images que vous voyez, je ne pouvais pas prendre une seule. Je voulais en mettre une image. J'ai dit, mais ça ne va pas répondre à tout le monde, ça ne rejoint pas tout le monde. Alors, j'ai décidé de mettre les 4. Au moins, chacun choisira ce qui représente une bataille, un combat pour lui. Amen? N'est-ce pas? Ok, mais parce que quand on parle du combat aujourd'hui dans notre monde, les jeunes, ils voient les militaires avec des guns. Nous allons regarder quelques points rapidement. Introduction, bon, et puis fortifiez-vous dans le Seigneur, revêtez-vous, et on va aller à la conclusion. Mais il y a d'autres points qui vont venir au travers de ça quand même. Alors, le but de l'enseignement ce matin, quand nous voulons enseigner, le but de l'équipe pastorale est de nous enseigner, de nous sensibiliser au combat spirituel. Sensibiliser chacun de vous au combat spirituel. Si vous le savez, tant mieux. Si vous ne le savez pas, notre but est de vous réveiller et de nous réveiller tous, notre conscience ensemble, qu'il y a un combat spirituel qui existe et que nous devons mener le combat et faire partie du combat. Nous ne pouvons pas nous asseoir à côté et dire « moi, ça ne me concerne pas ». S'il te plaît, ce matin, ça te concerne. Et deuxièmement, vous encouragez à devenir des chrétiens robustes, forts, capables de combattre le bon combat. Le but de cette série-là, c'est ça. Et tous les dimanches, quand nous sommes ici... Allô? 1, 2. Bon,
C'est parce qu'il voulait camoufler le micro dans ma couleur. Donc ça ne marche pas. Là, on met un micro qu'on peut bien voir. Ça paraît, hein? Alors donc, comme je revenais, je disais, vous sensibiliser par rapport au combat spirituel, nous encourager à devenir robustes, forts et capables de combattre le bon combat de la foi. Et troisièmement, nous aider à résister à toutes les ruses du diable. Alors, je vous demandais en réalité, si nous voulons regarder la réalité, la nécessité du combat. On dit qu'on est conscient qu'il y a le combat, mais ce n'est pas tout le monde qui est conscient qu'il y a le combat. Plusieurs passages de l'Écriture nous interpellent au combat spirituel. Mais je vais prier quelques-uns seulement pour que nous regardions cela ensemble. Dans Pierre, l'apôtre Pierre sensibilise les chrétiens au milieu des difficultés en Asie mineure, au milieu du combat. De la persécution, il les sensibilise. Il appelle les chrétiens. Il dit, soyez sobres. Ça veut dire, de soyez à jeun, lucide. Et veillez, votre adversaire, le diable, rôde. Il n'a pas dit, votre ami, le diable, rôde. Rugissant, cherchant qui il veut bénir. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il a dit, votre adversaire, le diable, rôde. Il rugit comme un lion. Et il cherche qui il va dévorer. Donc, il y a un combat. Il est en train de conscientiser les chrétiens en leur disant, vous n'êtes pas amis du diable. Il y a des gens qui vous en veulent. Que vous voyez ou pas, il y a des choses qui vous en veulent dans le monde spirituel. Alors, soyez conscients de cela. Et ça va se manifester de différentes manières. Mais soyez conscients. Il n'y a que le ciel seulement qui est votre ami sur la terre. Mais en dehors de ça, tout ce qui est au contrôle du diable sont contre vous et contre moi. Donc, soyez éveillés. Et nous pouvons voir un autre verset où dans Luc, le Seigneur même parle à Pierre. Il lui dit, Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Pourquoi avait-il besoin de dire ça à Pierre? Pour le rendre conscient qu'il y a un combat. Le diable t'a réclamé. C'est-à-dire que le diable t'a demandé. Il dit, donne-le-moi. Je vais le passer dans ma passoire. Et je vais voir si on sort de là, s'il sort de là, s'il va continuer de te servir. Et il a fait la même chose avec Job. Il a passé Job dans sa fournaise. Job est sorti pur. Si le diable te réclame ce matin, est-ce que tu sortiras comme Job? Ou tu vas abandonner? Donc, c'est pour nous dire qu'il y a un combat. Et nous ne pouvons pas nous asseoir sur nos lauriers et faire comme s'il n'y a rien. Donc, il y a un combat. Amen. Il y a un combat. Amen. Amen. Ah, je sais que vous n'aimez pas ça, mais il faut que vous dites Amen parce qu'il faut qu'on soit d'accord pour le faire. Alors, on va regarder dans les Écritures ce que l'Écriture nous dit ce matin. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si nous regardons dans Éphésiens sans plus tarder, Éphésiens chapitre 6, qui est notre texte de base, nous allons lire cela. De verset 13, verset 10 à verset 13, chapitre 6. Il nous dit ceci, si vous l'avez trouvé, Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 13. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister et de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est l'apôtre Paul qui écrit cela après avoir donné plusieurs enseignements sur les bénédictions que les chrétiens ont dans les lieux célestes. Sur le fait que nous sommes une nation, païens et juifs maintenant sont devenus un. Après avoir enseigné sur l'unité de la foi et demandé que nous devons nous dépouiller du vieil homme et de porter le nouvel homme, la nouvelle identité en Christ. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors dans cette nouvelle entité, le chrétien est appelé à marcher d'une certaine façon, en conformité avec sa nouvelle identité. Paul a enseigné cela. Et il continue de donner les devoirs. Il enseigne sur les devoirs, la relation entre les enfants et les parents, madame et monsieur, les employés et leur patron. Et il va terminer avec tout cela. Il dit, du reste, pour conclure, pour terminer, pour finir, alors fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia! Fortifiez-vous dans le Seigneur. Il appelle les croyants à se fortifier dans le Seigneur. Mais pourquoi nous devons nous fortifier dans le Seigneur? C'est la question qu'on peut poser. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Se fortifier dans le Seigneur, voilà ce que ça voudrait dire. C'est se rendre fort, rendre puissant, se renforcer. Partez dans des gyms, les salles de fitness. Qu'est-ce que les gens font là-bas? Ils font des entraînements. Et dans ces salles de fitness, ils font quoi? Ils renforcent quoi? Leurs muscles. Et des fois, quand ils sortent de là, ils ont des plaquettes de chocolat sur la bedaine. Mais moi, je n'en ai pas. J'ai des zones de confort présentement. Alors, donc, vous voyez? Et la Bible nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. Nous devons nous exercer dans la foi en Jésus-Christ, revêtir la puissance de Dieu pour pouvoir travailler, contrecarrer l'ennemi. Alors, fortifiez-vous. Et qu'est-ce que ça voudrait dire dans ce sens? Et c'est traduit dans d'autres passages, dans d'autres traductions bibliques. Il dit ici, fortifiez-vous par soyez puissants dans le Seigneur et puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Devenez fort avec force très puissante du Seigneur. Est-ce que ça continue? Voilà. Armez-vous de force dans le Seigneur. Ça, ce sont des expressions, différentes traductions dans la parole de Dieu. Vous pouvez aller voir ça. C'est ce qu'elle nous dit. Tout cela pour nous amener à être robustes, à être des hommes et des femmes qui ne sont pas ballottés à tout vent. À ne pas avoir peur de l'ennemi, mais de le confronter. Ne pas le provoquer, mais s'il vient, on est en auto-défense. Amen. Fiez-vous dans le Seigneur, mais comment? On me dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Mais comment je fais cela? On peut se fortifier en lisant la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et quand je lis la parole de Dieu, c'est un moyen de me fortifier. Parce que j'apprends dans la parole de Dieu ce que Dieu est. J'apprends à connaître mon Seigneur. J'apprends à connaître ce qui est à moi. J'apprends à connaître ce qui est aux autres. J'apprends à connaître mes adversaires. Et j'apprends comment utiliser la parole de Dieu pour mener un combat. Alors, je me fortifie. Quand tu manges à la maison, tu fais quoi? Tu fortifies ton corps. Parce que quand ton corps est fatigué, il a besoin de nourriture. Pour te soutenir, pour pouvoir continuer ton travail. Alors, on nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. Comment? En revêtant toutes les armes de Dieu. En revêtant toutes les armes de Dieu. On n'a pas dit en portant quelques armes de Dieu. On n'a pas dit si ça te tente, tu vas trier dedans. C'est une option. Bon, je veux ça, la ceinture de sécurité, je veux ça. Bon, le casque, je ne suis pas certain qu'on va avoir besoin. Est-ce que c'est ça? Non. Un soldat, quand il va au combat, demandez-leur. Si vous ne savez pas, parlez au capitaine Stéphane Demers qui est à l'église maintenant, il est devenu pasteur. Parlez-lui, il va vous dire ce que c'est qu'un militaire quand il va au combat. Quand un soldat va au combat, il prend tout le panoplie, tout le kit, full équipé, pour ne rien manquer. Et c'est ce que l'Éternel, la parole de Dieu nous dit. Prenez toutes les armes de Dieu. Il n'y a rien à négliger. Tu ne peux pas dire, bon, c'est une gourde, je n'ai pas besoin. Tu vas en avoir besoin pour boire de l'eau. Et si tu n'amènes pas cette gourde-là, je te dis que la soif va te torpiller en chemin. Alors donc, tu as besoin de prendre toutes ces armes-là. Mais quelles sont ces armes que l'Éternel nous demande, qu'on nous demande de porter? Hein? Il nous demande de prendre toutes les armes. Voilà la liste. Je ne rentrerai pas dans le détail de cela. Il y a 6 armes. Et ces 6 armes-là, Stéphane et Denis Gay viendront vous enseigner les semaines qui vont suivre sur cela. Comment vous devez les utiliser? Comment vous devez vivre avec ça? Comment vous devez mener un combat avec? nous parle de ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, la chaussure de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Ça, c'est leur territoire, je leur laisse. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Quand il nous parle de cela, on a dit comment nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Mais, excusez-moi, dans sa toute puissance. Je reviens en arrière. Je pense que j'ai manqué mon... Alors, ils nous ont dit de nous fortifier dans le Seigneur, dans sa force toute puissance, n'est-ce pas? Dans sa force toute puissance. Et la puissance de Dieu, c'est quoi pour vous? Et quand l'apôtre Paul nous parle de la puissance de Dieu, il fait référence à la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La puissance qui a ressuscité Christ. Le Père et le Saint-Esprit, en collaboration, ont ramené le Fils de Dieu à la vie. Il dit, fortifiez-vous par cette puissance-là qui triomphe de tout. Alors, en revêtant les armes de Dieu, je ne revais pas les armes de quelqu'un d'autre. Je revais les armes que Dieu lui-même porte pour mener une bataille, pour gagner les victoires. Alors, si je me fortifie et que je m'habille en cela, alors je deviens invincible. Amen. Et c'est ça que l'Écriture nous demande. Alors, quand on nous dit de revêtir toutes les armes de Dieu, pourquoi nous devons les revêtir? Les réponses sont simples. C'est des choses que nous connaissons. Premièrement, pour tenir ferme contre les ruses du diable. N'importe qui à l'école de dimanche, on vous dira ça. Vous partez dans la classe de Marco et Jérémie avec notre caillou, avec les enfants qu'ils enseignent. Ils savent ça. Ils savent même plus que d'autres ici dans la classe ici. Et dans la salle ici, pas dans la classe ici. C'est les classes sont en haut. Mais on nous dit les ruses du diable. C'est quoi les ruses du diable? Nous devons porter toutes les armes de Dieu pour résister aux ruses du diable. Je vais vous donner quelques ruses du diable. Quand Israël est sorti de l'Égypte, d'abord avant de le sortir, quand ils sont sortis de l'Égypte, et en partant, qu'est-ce que Pharaon a fait? Il les a poursuivis. Il veut aller les rattraper, les ramener. N'est-ce pas? Et pendant que Israël était en marche, il y a eu des ruses de l'ennemi. Balak, Balaam ont essayé de maudire les enfants d'Israël à plusieurs reprises pour les empêcher d'atteindre les objectifs de Dieu. Les ruses du diable ne sont rien d'autre que des embûches que l'ennemi met sur notre chemin pour nous empêcher de devenir grands et forts dans le Seigneur, pour nous empêcher de croître, pour nous empêcher d'exercer notre ministère dans sa pleine capacité, pour nous empêcher d'être un bon mari auprès de notre femme, d'être une bonne femme auprès de notre mari, d'être de bons enfants pour les parents et d'être de bons parents pour les enfants. Plutôt que de les encourager, on les irrite. Plutôt que d'aimer sa femme, on la maudisse. Alors, donc, c'est des choses comme ça que l'ennemi essaye de mettre comme des embûches dans notre... Et cela nous empêche de grandir, d'atteindre les objectifs de Dieu. Il met des choses sur notre chemin pour nous amener à être rebelles contre Dieu. Et plus nous sommes rebelles contre Dieu, mieux le camp du diable est content et moins le ministère progresse. N'est-ce pas? Et ces ruses-là, il y en a plein. Dans notre monde moderne, une des ruses qu'on pourrait dire, la japette. Vous connaissez la japette? La zapette, on dit comme ça? Bon, je vais parler de la manette. Ça, je peux bien prononcer. Je voulais dire en bon québécois, mais ça ne marche pas. La manette de télévision, là. Quand vous avez la manette de télévision dans votre main, là, vous savez que ça, je ne dis pas que la télévision est mauvaise. Je ne dis pas que les émissions à la télévision sont mauvaises, ni à l'Internet, ni rien. Ce n'est pas ça mon point. J'ai dit, l'ennemi peut utiliser même des bonnes choses pour nous détourner de Dieu, pour nous empêcher de faire ce qu'on devrait faire. Si tu devais lire ta Bible, tu n'as pas lu ta Bible, tu prends la manette de télévision, tu commences à changer de chaîne en chaîne. Penses-tu que tu pourras retourner lire ta Bible? Peut-être pas à ce moment, moins que tu sois vraiment bien discipliné. Et je ne pense pas que tout le monde a la discipline pour ça. Les jeunes, c'est les manettes de jeux vidéo. Oh, papa, je vais faire ça après. Est-ce que ça se fait? Non. Donc, c'est des ruses, des moyens que l'ennemi nous détourne. L'ennemi utilise d'autres ruses. contre nous, entre enfants de Dieu dans le ministère. Tu es jaloux de la prospérité de l'autre dans le ministère. Sa branche marche, il travaille efficacement. Au lieu de bénir Dieu pour cela, alors on va être jaloux de lui ou d'elle. On va essayer de mettre des bâtons dans ses roues, de critiquer par le dos, par derrière, en avant, et parler mal pour détruire. Et ça, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne peut que venir du diable, parce que ça ne contribue pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Si nous faisons cela, nous sommes en train de se laisser distraire par le diable. Donc, nous devons faire attention à cela. Les ruses du diable sont nombreuses. Vous connaissez le caméléon? Combien d'entre vous a déjà vu un caméléon? En tout cas, en Afrique, on en a beaucoup. Ici, il n'y en a pas, hein? À TV. Mais vous savez, le caméléon est capable de se camoufler. Hein? Partout où tu mets le caméléon, il va prendre la couleur de la place tout de suite. Il se camoufle facilement. Et la Bible nous dit que le diable est rusé, il se déguise en ange de lumière. Il peut se cacher comme le caméléon au milieu de nous. Il vient comme un chrétien, mais ce n'est pas un chrétien. Il chante comme un chrétien, mais ce n'est pas un chrétien. Il joue, il prie, il fait tout comme un chrétien, mais ce n'est pas un chrétien. Il est au milieu de nous. La Bible dit que c'est un loup ravisseur. Il vient pour détruire. Mais on pense qu'il est des nôtres. Il n'est pas des nôtres. Comment déceler un tel chrétien au sein du peuple de Dieu? C'est un, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit, avec la parabole de l'ivraie et du blé, il dit, laissez faire. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas détecter. On laisse. À la récolte, les fruits vont sortir. On va récolter le blé, on va mettre le feu au l'ivraie. Et c'est ça. Il y a des personnes, on ne peut pas s'asseoir, nous, sur le trône de Dieu. Lui, il est chrétien. Lui, non. Lui, oui. Lui, non. Un, deux, trois, chrétien. Deux, trois, quatre, cinq. Non, faux. On ne peut pas faire comme ça. Alors, nous devons être lucides, combattre le bon combat. C'est de savoir discerner les ruses du diable dans notre vie qui nous empêchent d'avancer. Dire, mon frère est comme ci, ma sœur est comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas reprendre un frère, on ne peut pas reprendre une sœur, on ne peut pas recevoir de critiques constructives. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler des choses qui détruisent, qui empêchent l'autre de grandir et d'aller de l'avant et de nuire même à l'œuvre de Dieu. Ça, ça vient du diable. Deuxièmement, pourquoi nous devons porter toutes les armes de Dieu? Il nous dit pour lutter contre les puissances spirituelles. Les armes de Dieu sont les seuls moyens pour pouvoir vaincre le diable. Les armes de Dieu sont les seuls outils que Dieu nous donne pour pouvoir aller au combat. Si l'Éternel nous équipe de cela, c'est parce qu'il y a une réalité de combat. Et il nous dit, car vous n'avez pas à lutter contre. On peut le regarder ensemble, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes, contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On dit, ta bataille là, il y a une bataille, mais tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire pas contre ton frère, pas contre ta sœur, pas contre ton patron, pas contre ta femme ou ton mari. Tu n'es pas en concurrence avec eux. Tu as quelqu'un avec qui tu dois te battre. C'est le système de ce monde. C'est les forces des ténèbres dans les lieux célestes qui sont invisibles, que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas voir, mais qui te font mal. Là que tu dois te battre avec. Ton frère qui te tape sur les nerfs, là, ce n'est pas lui ton ennemi. Ce n'est pas avec lui que tu dois te battre. Ton ennemi, c'est le diable. C'est celui qui ne veut pas que les affaires de Dieu prospèrent. C'est celui qui empêche ta foi de grandir. C'est celui qui ne veut pas que tu sois épanoui en Jésus-Christ. C'est celui qui ne veut pas que tu jouisses de la vraie joie de Christ. C'est celui qui veut détourner toutes les bénédictions de Dieu dans ta vie. Et quand nous lisons dans Daniel, quand Daniel s'est mis à prier, l'Écriture nous dit, il a demandé à Dieu et la bénédiction est envoyée. Mais la bénédiction a été interceptée par le prince de Perse, pour ne pas qu'il reçoive la bénédiction. Et Daniel a continué de persévérer dans la prière. Il combattait le bon combat. Et on dit que l'archange Michel est venu aider pour pouvoir apporter. Ils ont triomphé. Et quand ils sont venus, ils ont dit, Daniel, dès le premier jour que tu t'es mis à genoux à prier, ta prière a été entendue dans le ciel. Tu as été exaucé. Mais en venant, voilà ce qui s'est passé en chemin. Pour nous montrer le monde des ténèbres qui se bat, qui essaie de voler notre bénédiction, de voler notre joie et de voler tout le reste avec, pour ne pas que la vie chrétienne soit plaisante, que ça soit plate. Je ne pense pas que le Seigneur nous a appelés pour avoir une vie plate. N'est-ce pas? Il nous a appelés pour que nous puissions nous réjouir en lui. Mais si ta vie est plate, ce n'est pas la faute à Dieu. Peut-être que tu as donné accès au diable quelque part. Et tu es pour te battre. Réclamer et proclamer des paroles de vérité pour pouvoir avancer. Troisièmement, pour résister, pourquoi nous devons revêtir toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister contre dans les mauvais jours. Les mauvais jours, c'est quoi? Les mauvais jours, ça peut être les jours de pleurs, les jours de maladie, les jours de persécution, les jours calamiteuses, comme on entend, le tremblement de terre qui s'est passé à Mexico. Et la tempête qui vient de s'abattre sur Floride. Et ça, ce sont des jours mauvais aussi pour certaines personnes. Et la persécution dans la vie du croyant. Et quand ces moments-là arrivent, comment tu vas résister? Comment tu vas tenir? Parce que c'est perçu comme une bataille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Certains abandonnent le Seigneur. Ah, moi, je ne suis pas venu dans le Seigneur pour souffrir. Si j'ai des problèmes, c'est que Dieu il n'est pas assez puissant pour me délivrer. Je n'en veux pas de ce Dieu-là. Je claque la porte à son nez. Je m'en vais ailleurs. En allant ailleurs, est-ce que tu penses que ce sera mieux? Est-ce que ça sera mieux? Non! Ça ne sera pas mieux. Alors, donc, mieux vaut de rester avec lui et de traiter avec lui et de plaider pour qu'il te vienne en aide. Alors, on dit dans les mauvais jours de résister. Combien de couples ont sauté parce que des temps difficiles sont arrivés. Ils n'ont pas réussi à s'asseoir pour se parler et parler devant Dieu et fléchir les genoux, gêner, prier, plaider, demander la faveur de Dieu et demander à des frères et des sœurs de se joindre à eux, prier pour que leur couple réussisse. Ils n'ont pas fait cela. Ils ont pris le moyen facile. On sort par la fenêtre. Puis c'est terminé. Mon problème, c'est le monsieur-là. C'est le monsieur-là qui est mon problème. C'est la madame-là qui est mon problème. Si je ne suis plus avec lui, je change, je marie une nouvelle femme, un nouveau mari, tout va aller bien. Pensez-vous que ça va aller bien? Non! Non! Fléchis les genoux. Combien de temps nous passons à chercher de l'argent? Combien de temps nous passons devant l'Internet, devant la télévision? Est-ce que nous passons le 1/5 de cela dans la prière quand on a face à nos problèmes, face à nos difficultés, pour nos enfants, pour notre mari, pour notre travail, pour notre frère qui souffre, pour la maladie? Est-ce que nous faisons cela? Alors la Bible nous dit que nous devons vêtir toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours, c'est ça. C'est ça, les frères. Et quand des difficultés viennent, si tu n'es pas bien vêtu, si tu n'as pas pris les armes de Dieu, tu risques de périr dans la bataille. Dieu ne nous équipe pas pour rien. Et quand on nous donne, c'est pour avancer. Il y a une histoire qu'un vieillard, un vieux chrétien qui m'a conté quand j'étais en Côte d'Ivoire, et il m'encadrait. Il ne savait pas lire, mais il avait l'expérience du terrain. Il me parlait, il m'a donné cette image-là. Et puis plus tard, un jour, j'ai vu ça, que quelqu'un a fait une brochure avec ça. J'ai dit, mais est-ce qu'il a parlé avec Tchemogo? Je ne savais pas. Mais il y a longtemps, il y a plus de 20 ans de cela. Il me dit, Adama, il dit, lui, il a eu un songe. Le Seigneur lui a parlé en songe. Il dit, on a pris notre croix. Tout le monde, les chrétiens avaient pris leur croix, tout le monde. Et puis, ils se dirigeaient quelque part. On dit, le Seigneur est là. Il convoque tout le monde d'aller là. Et ils partent avec leur croix. Tout le monde avait la croix selon la mesure. Et là, il dit, lui, Tchemogo, a pris sa croix. Il dit, c'était trop lourd. Il dit, je l'ai diminué. Puis j'ai pris. J'ai avancé. Après, j'ai diminué encore. Je l'ai pris. J'ai avancé. Après, j'ai diminué. Et à force de diminuer, la croix est devenue légère. Et puis, je peux courir devant tout le monde. Dit, ce que j'ai oublié, quand on est arrivé, il y avait un fossé entre moi et le Seigneur. Et la croix était faite en fonction de ce fossé-là. Il dit, tout le monde vient, ils posent leur croix, ils marchent, et puis ils vont voir le Seigneur, ils tirent leur croix, parce qu'ils ne laissent pas pour que quelqu'un d'autre marche dessus. Alors, il dit, lui, il était là avec sa croix qui est devenue un plus maintenant. ou une multiplication. Il dit, je l'ai dans ma main. Et le Seigneur, à l'autre bord, me dit, Tchemogo, viens. Il dit, je vais mettre, ça va tomber dans le fossé, je ne peux pas. Je vais mettre, ça va tomber dans le fossé, je ne peux pas. Il dit, mon sommeil s'est arrêté là. Il dit, Tchemogo, à son réveil, comme il ne savait pas lire, il a interprété, il a eu l'interprétation du songe. Il dit, Tchemogo, toi, tu essaies de vivre la vie chrétienne à ta manière et tu ajustes la Bible à ta façon. Tu coupes des choses dedans qui ne font pas ton affaire. Et tu veux vivre à ta manière sans être à la mesure que moi, Dieu, je te demande. Alors, tu ne peux pas vivre comme ça, Tchemogo. Il faut que tu changes. Enlèvement. Avant mon prochain retour, il faut que tu t'adaptes à mon standard de vie. J'étais jeune chrétien quand Tchemogo m'a parlé de ça. Et je vous assure, ça m'a marqué. Et c'est resté avec moi. Je vous demande, les armes de Dieu pour combattre, tu tries dedans, tu enlèves, tu jettes certaines choses pour faire pas, ça ne fait pas ton affaire, parce que tu trouves que c'est encombrant, ça te dérange, tu n'en veux pas. Mais si tu veux triompher l'ennemi que tu as devant toi, tu ne peux pas faire autrement que de prendre l'arme au complet. Les armes au complet, pas à peu près. Amen. Alors, nous devons porter toutes ces armes au complet. En conclusion, l'Écriture nous dit ceci. Nous n'avons pas un ennemi visible. Comme notre ennemi n'est pas un frère charnel, une sœur charnelle que nous combattons, et que notre ennemi est invisible, alors voici ce que nous dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc si Dieu nous donne ces armes-là, c'est parce que c'est une puissance. Il n'y a pas d'autre arme qui peut renverser la tendance chez le diable, qui peut vaincre le diable, si ce n'est les armes de Dieu. Alors, vu qu'il nous équipe de cela, alors nous devons les utiliser pour pouvoir triompher de l'ennemi et dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit dans notre travail, dans notre vie de famille, dans notre vie de relations humaines les uns avec les autres, pastorales, ministères, au niveau de la musique. Nous avons besoin de ces armes-là partout. Un soldat ne se déshabille pas de ses armes. Quand il est sur le champ de bataille, il reste habillé jusqu'à la victoire finale. N'est-ce pas? Il n'abandonne pas. Il ne pose pas son arme. Il l'utilise. Donc nous ne pouvons pas nous séparer des armes de Dieu. Nous devons les porter jusqu'à la victoire finale, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et nous n'avons pas le choix. Si tu ne veux pas te battre, le diable va t'attaquer. Alors tu n'as pas le choix de ne pas te battre. Mais comme on ne peut pas aller dans le champ de bataille en bikini, et en Bermuda, tu n'as pas le choix de porter les armes de Dieu. Amen. Alors que Dieu nous aide à être un peuple qui se lève et qui combat le bon combat. Alors j'ai un chant que j'aimerais que nous nous levons ensemble, si vous voulez, pour terminer cette prédication, première partie. Et comme je vous le dis, la semaine prochaine, Stéphane qui va nous apporter la deuxième partie. Et puis après, ça se serait dénigué. Et le 1er octobre, je viendrai terminer tout cela avec la prière, le combat dans la prière. Alors, il y a le chant qui dit, Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Et ça, quand je préparais, c'est mon frère Michel Penaud qui m'a parlé de ça. Et j'ai trouvé très bien, il m'a donné un PowerPoint sur ça. On va partir sur là, on pourra le chanter ensemble. Si ça ne marche pas, j'ai fait un deal avec l'équipe pasteur et l'équipe musical, Georges et son équipe, ils sont où? Si jamais ça ne marche pas, vous devez nous venir en aide, s'il vous plaît. Hein? Ok. Hein? Est-ce que ça peut aller? Tu peux poser dessus? S'il te plaît, la page noire là, clique dessus, s'il te plaît. Comment c'est fermé? Reviens à la fin. C'est pas vrai. Recule. Recule. Bon. Oui, c'est ça que je leur demande. Je pense que... Va dans l'autre sens. Une embûche, hein? N'est-ce pas? L'ennemi met une embûche? Bon. C'est à toi de cliquer dessus, pas moi. Et mets le volume, le son, hein. Je ne sais pas si on peut l'avoir en avant ici. Hein, live? Bon. On dirait que ça ne va pas. On demande à notre équipe de venir. Ils vont nous joindre. Hein? Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Et nous sommes cette armée de Dieu. Que vous êtes, que nous sommes. Et Dieu s'est bâti une nation. Une nation qui va parler de sa part. Une nation qui va faire sa volonté. Une nation qui va défendre la bannière du ciel. Une nation qui ne se taira pas. Une nation qui ne reculera pas devant le prix à payer. Une armée qui se bat. Une armée qui est prête à périr au prix du royaume des cieux. Pour donner gloire à l'Éternel. Et c'est ce que Dieu attend de vous et moi. Amen.
Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ta
pour mettre ce temps. Vraiment, merci beaucoup les amis. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te demander de nous conduire dans ta bonté, dans ta fidélité. Donne-nous de pouvoir prendre les armes, de ne pas avoir peur de cela, de nous fortifier en toi, de porter ces armes et d'être une nation qui se lève pour toi, une nation qui marche pour toi, une nation, une armée puissante devant laquelle les ténèbres vont reculer. Nous voudrons être un peuple qui avance et que l'Évangile progresse dans notre province, dans notre région, et que dans la vie de nos familles, que les ténèbres reculent, et que le péché soit dépecé, et que la sainteté prend la place. Toutes les places de notre vie où l'ennemi a pris place, à partir de ce matin, nous disons à l'ennemi non, nous le disons out, de sortie de notre vie, et nous proclamons la victoire de Christ sur notre vie, le sang de Jésus-Christ dans notre vie, et sa victoire est notre victoire. Aide-nous à marcher sous ta bannière et avec tes armes tous les jours. Accompagne-nous maintenant dans ta paix et dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, amen.